Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous avez la parole dans le JDA pour réagir et commenter l'actualité. Aujourd'hui, lundi, comment lutter contre le terrorisme dans le Sahel? C'est une question récurrente depuis plusieurs années, mais l'annonce d'un réajustement de Barkhane par Paris interroge sur les moyens désormais pour lutter contre le terrorisme. Alors que de plus en plus de civils sont touchés, quelle stratégie les pays sahéliens doivent-ils mettre en place? Faut-il miser sur des milices civiles? Et aussi comment développer économiquement notamment les zones touchées? Pour participer, composez le numéro du standard 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp, notamment si vous nous écoutez du côté d'Abidjan sur le 91.1 FM. Écrivez-nous au 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Et on vous rappelle pour le direct. Mais d'abord, sans plus tarder, direction le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Je vous salue. Je suis là ce matin pour apporter mon soutien à M. Issiaka Diaby, le président des victimes de Côte d'Ivoire. M. Issiaka Diaby est dans un combat. Il a besoin de l'aide. Il faut qu'on l'accompagne. Et moi, je demande aux parents des victimes et aux victimes de se rendre à l'aéroport le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo pour lui exprimer notre désarroi. Parce que c'est ça aussi la démocratie, la libre pensée. Donc, les victimes, je les encourage et je les exhorte à aller à l'aéroport pour aller accueillir Laurent Gbagbo à leur manière. Idriss, bonne journée.
Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour témoigner du retrait de la France en Afrique. Voilà, je vois que beaucoup de gens s'en réjouissent, mais je pense pas que ce soit une très bonne chose. Parce que, à coup sûr, le Mali va sombrer dans le terrorisme. Ça va devenir une base arrière du djihadisme en Afrique. Et c'est certainement pas Assimi Goïta qui est à peu près partout sauf au front, là où il doit être en tant que colonel de l'armée malienne, qui va échanger quoi que ce soit. Donc pour l'instant, les Maliens, ils sont contents parce que ils sont très, très partisans des complots contre la France. Ils voient des complots partout. Mais dans 5 ans, quand ce pays sera devenu le nouveau Raqqa, on verra si les discours seront les mêmes.
Oui, bonjour les amis des JDA, c'est Touré. En fait, je voudrais dire aux amis, parce que je sais que certains ne sont pas du Mali, ne savent pas comment les gens vivent. Et si vous voyez aujourd'hui que les Maliens veulent négocier avec les djihadistes, surtout beaucoup de mouvements là, pourquoi? Ce sont les Maliens qui ont appelé la France pour venir les aider, les combattre. Si aujourd'hui, vous voyez qu'on veut négocier avec les djihadistes, posez-vous la question. Ce sont les mêmes Maliens là qui sont sortis dans leur grande majorité pour accueillir la France quand ils venaient. Et aujourd'hui, si c'est le contraire, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a un sentiment anti-France et autre chose. Les gens n'ont pas vu grand-chose. Si vous savez comment l'insécurité a propagé partout, pire que avant l'arrivée des Barkhane. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, c'est M. Touré. Je veux parler du Mali aujourd'hui, juste pour dire à M. Assimi Goïta qu'en tant qu'Africain, je sais que beaucoup d'Africains aussi le soutiennent, nous le soutenons. Et là, je pense que c'est une bénédiction pour le Mali actuellement, ce qui se passe. Parce que le fait que la CEDEAO, l'Union africaine, la Banque mondiale et je ne sais quoi d'autre, la francophonie, lui tournent le dos, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. Parce que si ces gens-là se tournent le dos, c'est que forcément leurs intérêts sont en jeu. Et ce n'est pas l'intérêt du peuple malien qui les intéresse vraiment.
Ah. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Comment lutter efficacement contre la montée du terrorisme dans le Sahel après plus de 8 ans d'engagement? La France va donc retirer progressivement une partie de ses troupes dans le Sahel dans un délai d'environ 2 ans, même si le calendrier reste à préciser. La première étape du retrait sera marquée par la fermeture de certaines bases, notamment la base militaire de Gao dans le nord du Mali, et de la réorganisation de la lutte autour d'une alliance internationale. La ministre française des armées, Florence Parly, a estimé que les forces du G5 Sahel étaient désormais capables de combattre les groupes terroristes. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle stratégie les armées nationales doivent-elles adopter au-delà de la réponse militaire? Quelles doivent être les réponses apportées par les États sahéliens à cette question du djihadisme? 33 1 55 07 58 00, on attend vos commentaires sur ce sujet et on commence tout de suite d'ailleurs. Alors, j'ai pas le prénom, mais j'imagine que c'est Janvier. Janvier, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Janvier. Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est bien cela. Je suis à N'Djamena, au Tchad.
Merci de votre inscription. Bienvenue dans le journal des auditeurs. On l'a vu, la stratégie militaire peine à faire ses preuves au Mali. Vous dites il vaut mieux assumer sa responsabilité, même dans la limitation des moyens, que d'être perpétuellement en situation de d'assistanat. Selon vous, Janvier, cette décision de la France de réduire ses troupes est une bonne opportunité pour les armées africaines?
Oui, c'est une décision qui est venue à point nommé parce que nous sommes des Africains qui sont aujourd'hui aguerris, qui sont aujourd'hui capables de pouvoir également relever tous les défis, y compris les défis de la lutte contre le terrorisme. Je pense que la France a bien fait de retirer ses forces, parce que là, nous constatons que ces forces de Barkhane constituent en quelque sorte psychologiquement comme une force encore néocoloniale. Donc, moi je pense qu'il est du devoir et de la responsabilité des États africains, surtout des chefs d'État, de pouvoir se collaborer, de pouvoir mettre en place une force conjointe multinationale, surtout composé au moins de 6 000 militaires pour pouvoir également faire face de façon militaire. Mais au-delà de la force militaire, il va falloir que les États africains doivent s'entendre, surtout en matière de renseignement, en matière de la collaboration, mais aussi de relever le défi du développement économique. Parce que tout le problème de la lutte contre le terrorisme, c'est le problème de sous-développement, c'est le problème de la misère. Et donc, les djihadistes profitent de la situation calamiteuse des États africains pour pouvoir recruter des jeunes qui sont désillusionnés, qui sont en perte de repères, surtout économiques. Donc moi, je pense que les Africains doivent maintenant se sentir toujours prêts à pouvoir pousser la lutte contre le terrorisme. Mais il faut dire que le terrorisme n'est pas un fléau purement africain. C'est une lutte qui doit engager tous les États du monde, y compris les puissances telles que la France, les États-Unis, la Russie et bien d'autres. Mais prioritairement, ça nous revient de droit d'abord, nous les Africains, de pouvoir faire face à ce mal qui se trouve au cœur de l'Afrique, surtout dans la zone du G5 Sahel.
Zone du G5 Sahel, en effet, on entend bien, vous avez très bien, excellemment résumé la situation, Janvier, en tout cas résumé des propositions qu'on entend régulièrement. Vous l'avez dit, création d'une force multinationale conjointe. Alors c'est ce qui existe déjà un peu, notamment dans la région du lac Tchad, pour lutter contre Boko Haram. Il y a cette force mixte, conjointe, avec le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Vous avez évoqué également, Janvier, la question du renseignement. Effectivement, souvent les observateurs, les experts le disent. Les pays africains ont du mal à se partager du renseignement. Et enfin, la question du développement économique. Comment justement développer ces zones qui parfois sont administrées par des djihadistes? 33 1 55 07 58 00. Merci beaucoup, Janvier, d'avoir ouvert ce débat. Excellente journée à N'Djamena, où il est 12h39. Serge, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour Serge, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Oui, bonjour Madame Arman. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Janvier, mais seulement là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque il parle par exemple de la pauvreté qui serait le résultat, le terrorisme.
L'une des causes du terrorisme.
Non, c'est pas vrai, parce que je lui poserai aussi la même question. Avant, on était tellement pauvres est-ce qu'il y avait ce terroriste qu'on retrouve aujourd'hui, dont en fait, moi, je pense que c'est une fausse idée. Bon, moi, déjà, je voulais revenir sur autre chose, c'est-à-dire que M. Janvier l'a quand même dit dans ses propos tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, Mme Harman, c'est comment se fait-il qu'on a autant des Occidentaux qui sont présents en Afrique, plus précisément au Sahel. Je parle des Américains, des Français, et qui ont tous les moyens, technologie, pour détecter ces gens qui se déplacent par centaines. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on en est encore à se dire, oui, on n'arrive pas à se partager, mais qui doit partager ces informations ? C'est le renseignement, c'est ceux qui ont ces satellites, puisque nous, on ne les a pas, en fait.
Bah après, le renseignement, ça peut être aussi du renseignement de terrain, hein. c'est des informations, il ne faut pas de grands moyens pour faire du renseignement. Hein.
Je suis d'accord avec vous, Madame Harman, mais effectivement, mais ça ne suffit pas, puisqu'on en produit, mais vous voyez que le plus grand renseignement, quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé au Tchad, regardez, des centaines, plus de 300, 400 véhicules qui se déplacent, c'est impensable. Moi, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les Occidentaux se servent du terrorisme, en fait, pour imposer leurs lois aux pays africains. Bon. Parce que voilà. C'est souvent selon le moment. Vous verrez toujours quand il y a un chef d'État qui n'est plus d'accord, tout le temps. Vous avez le terrorisme qui arrive, on ne sait d'où. Vous avez eu le cas
Pour le Mali, il y a une chronologie très précise hein, sur l'arrivée d'ACMI, les anciens du groupe pour la prédication et le combat groupe armé algérien. Donc on entend bien, mais on entend bien que pour vous, Serge, hein, c'est ce que vous avez dit au standard, hein, pour vous, hein, ce terrorisme est aussi peut-être un moyen de pression hein, sur les États africains. En même temps, y a-t-il une fatalité à ce terrorisme ? Trouvons les bonnes causes hein, pour peut-être trouver les bonnes solutions. Je demande à Charles de patienter un peu. Diomo, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à toute l'Afrique et bonjour à tout le monde.
Entier, bonjour au monde entier même, mon cher Diomo Debeng, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, la Côte d'Ivoire a inauguré la semaine dernière, une académie de lutte contre le terrorisme, une académie militaire à Jacqueville, au sud d'Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, voit une menace terroriste s'avancer hein, doucement, puisque 3 soldats ivoiriens sont encore morts hein, il y a quelques jours dans l'explosion de leur véhicule dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Oui, Stéphanie, à ce titre-là, pour en même temps aller dans le prolongement de ce que vous venez de dire, permettez-moi encore de remercier l'État ivoirien, à sa tête le président Alassane Ouattara, qui tient le taureau par les cornes, y compris en Côte d'Ivoire que dans l'Afrique tout entière. Mais le problème
voilà. Près de Corriche, effectivement, Diomo Debeng. Trou de proportion, gardez respect dans l'analyse et non dans la flatterie et la flagornerie. La Côte d'Ivoire est-elle menacée par ce terrorisme qui s'avance?
Oui, je ne vous flatte pas du tout.
Non, pas moi, le président,
pas rien. La Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a été déjà frappée par le terrorisme, à commencer par ce qui s'est déjà passé à Kafolo, Bassam et tout ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons pris le taureau par les cornes. Et je le disais tout à l'heure, je disais que la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas que pour les pays du G5 Sahel, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Il faudrait que nos gouvernants, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de nos pays, s'unissent pour former une véritable armée et surtout doter nos armées de moyens pour pouvoir intervenir. Parce que quand j'imagine, par exemple, que quand la France doit se déplacer avec ses troupes, la France vient avec son matériel, le matériel devrait être déjà en possession de nos forces armées. C'est ça le problème.
Donc pour vous, puisque la question de cette émission, c'est quelle solution pour lutter contre le terrorisme ? Pour vous, ça reste une solution militaire ?
C'est une solution militaire.
Pas de solution économique, ni sociale.
La solution économique, nous chantons partout sur cette radio-là que nous sommes le continent le plus riche du monde. Oui, on le chante tous les jours. Mais pourquoi avec ce moyen-là, on ne peut pas s'acheter des armements pour équiper nos armées, pour pouvoir éradiquer ce terrorisme, pour pouvoir unifier l'Afrique militairement, pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Moi, je pense que c'est une volonté politique déjà. Et j'invite tous les chefs d'État à s'illustrer ou à s'imprégner des technologies de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en 2 ans, le terrorisme ira.
Merci beaucoup, Diomo Debeng, de votre intervention hein, qui relevait effectivement hein, sur cette menace aussi hein, qui descend hein, vers le golfe de Guinée. 33 1 55 07 58 00. Charles, bonjour depuis Ouagadougou.
Oui, bonjour Stéphane et bonjour à tout le monde.
Bonjour Charles, le Burkina Faso reste aussi hein, très touché hein, par ce terrorisme, on l'a vu aussi, hein, les civils sont de plus en plus touchés. Le gouvernement hein, burkinabé a mis en place hein, les VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, des sortes de milices civiles. Est-ce que l'armement de civils paraît une bonne réponse à la lutte contre le terrorisme, Charles ?
Moi, je ne crois pas à l'armement des civils qui va faire de notre armée la plus puissante au monde. Madame, ici, le problème du terrorisme ici, on a tant qu'il y aura la corruption au sein de notre armée, ça sera très compliqué pour que nous finissions avec le terrorisme.
Permettez-moi pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord lutter contre la corruption.
Oui.
C'est une piste.
On a fini la corruption au sein de l'armée. Parce qu'on a entendu, on a vu, on a lu aussi dans certains journaux, même les prix de nos forces armées ne sont pas versés. Et même l'argent du contribuable qu'on doit prendre pour aller acheter de l'armement, certains généraux, certains politiciens détruisent cet argent. Encore, et je vais un peu contredire nos frères africains, parce que nos dirigeants, ils sont riches quand il s'agit de leurs propres intérêts. Voilà, je vois certains présidents qui sont capables même de l'armée des rebelles voilà, pour arriver au pouvoir. Mais ils sont incapables de l'armée voilà, pour nous sécuriser. On va prendre le cas du Tchad, on va prendre le cas de mon pays aussi, on va prendre le cas même du Mali. Voilà, actuellement, la sous-région est bradée par les terroristes. Au lieu que nos militaires qui sont formés avec l'argent du contribuable de surveiller ou bien de sécuriser notre sous-région, ils passent leur temps à faire des coups d'État. Ok. Et maintenant, actuellement, on ne doit pas faire le débat qui a tort, qui a raison. Actuellement, nous devons nous mettre ensemble, c'est-à-dire l'unification de la sous-région. Voilà, je suis à peu près...
Donc, quand on parle d'unification de la sous-région, c'est-à-dire des opérations militaires conjointes, est-ce que vous trouvez que les armées travaillent suffisamment ensemble ?
Madame, sans vous mentir, ils ne travaillent pas ensemble. Sinon, s'ils travaillaient ensemble, on allait sentir un peu de changement. Parce que chaque pays conserve ses renseignements pour ne pas partager. Même si souvent, ils viennent dans nos pays, ils font de beaux discours devant les caméras, mais on sait qu'en réalité, nos pays ne travaillent pas ensemble. Sinon, on ne peut pas comprendre actuellement la Côte d'Ivoire est attaquée. Maintenant, s'il y avait de bons renseignements, voilà, on pouvait éviter ces gens de crise. Maintenant, le problème aussi de nous, les Africains encore, on n'aime pas se dire la vérité. La vérité, c'est quoi ? Pendant que le Mali est attaqué, le Burkina a attaqué, nos dirigeants doivent nous aider. Non, chacun atteint de sécuriser dans son pays. Ok, on sait qu'il ne peut pas sécuriser son pays. Actuellement, la Côte d'Ivoire est attaquée, le Burkina est attaqué. Est-ce que vous avez vu, quand il y a eu l'attaque au Burkina Faso, est-ce que vous avez vu un président qui s'est déplacé venir soutenir le Burkina ? Moi, je n'ai pas vu. Maintenant, le problème, là, c'est quoi ? On doit se mettre ensemble en laissant un peu la France un peu se respirer. Parce que la France est venue nous sauver. Elle a fait ce qu'elle veut. Et elle a pu au moins. Maintenant, c'est à nous de nous mettre ensemble et essayons de voir ce qui va
arriver. Renforcer la coopération hein, militaire hein, entre les pays sur le plan... Hein, du renseignement également. Merci beaucoup Charles, bonne journée à Ouagadougou. Il est 11h et presque 49 minutes. Roland, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Roland, merci de votre patience. Vous êtes un peu comme Charles, hein. Finalement c'est une affaire de tous. Alors moi j'essayais hein, justement dans l'émission de poser la question, quelle solution peut-être au-delà du militaire, puisqu'on voit bien aussi l'échec des militaires, et on se rappelle que dans son propos, Emmanuel Macron la semaine dernière a également dit, voilà, on ne peut pas continuer à lutter ainsi en dégageant des zones, en chassant les terroristes de certaines zones, alors que l'administration n'y revient pas. Comment explique cela ? Comment faire, Roland, pour que l'administration revienne et que les zones libérées des terroristes le soient définitivement ?
Bonjour déjà à tous les auditeurs. Moi, je dirais que c'est le chien qui essaie de se mordre la queue, cette histoire de terrorisme. Parce que c'est une mauvaise volonté de des États développés et aussi une mauvaise volonté des États sous-développés. Je m'explique. Comment explique-t-on que les terroristes arrivent à s'armer, à avoir des armes aussi lourdes et ne les fabriquent pas?
C'est très simple, c'est une question qui revient régulièrement, Roland, je vous invite à vous informer. C'est très simple, vous savez, il existe un marché noir des armes, déjà d'une, des ventes illégales. Oui. Et ensuite, il y a aussi le fait que quand ils attaquent des militaires, ils récupèrent tout le matériel des militaires.
Oui, ils récupèrent tout le matériel des militaires, mais c'est comme si vous remplissiez, vous vouliez remplir, quand vous cherchez à remplir une bouteille qui est remplie au trois quarts, ce que vous allez mettre, c'est pas grand-chose parce que la bouteille est déjà remplie au trois quarts. C'est qui récupère des militaires qui massacrent. C'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont. Donc il y a une hypocrisie.
Je sais pas, vous avez fait un calcul, ça représente quoi?
Écoutez, on peut pas, c'est pas que j'ai fait un calcul, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine logique. Ils n'attaquent pas une armée qui a 100 millions de combattants pour ramasser.
Alors les terroristes n'ont pas 100 millions de combattants, Roland, vous estimez?
Non, mais
ils ont une poignée, hein.
C'est une manière de dire que pour qu'ils attaquent, il faille déjà qu'ils aient les armes nécessaires. C'est qu'ils prennent, c'est peut-être conséquent, mais c'est beaucoup moins conséquent que...
Et donc allez jusqu'au bout de votre réflexion, alors.
Pour moi, c'est qu'il faille que cette hypocrisie-là s'arrête. C'est soit on aide ou soit on n'aide pas. Et à un moment donné, les pays africains, plus vu qu'on parle du Sud-Sahel, ça...
Oui, du Sahel, oui.
Voilà, il faille qu'à un moment donné, eux aussi, ils arrêtent d'être sous tutelle. Parce qu'à force d'être sous tutelle, on finit par attendre que ce soit les autres qui fassent. Et qu'eux-mêmes, ils se forment et qu'ils prennent le taureau par les cornes, quitte à avoir des pertes. Mais à un moment donné, on sera obligé de se relever. Donc, si on se met tous ensemble véritablement et qu'on arrête aussi l'hypocrisie des États africains, ensemble, je pense qu'on peut...
Une bonne gouvernance et de l'union, c'est ce que je retiens beaucoup de votre proposition, mon cher Roland. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous. Il y a Jean qui nous disait le terrorisme est une manière de revendiquer, de lutter contre un système. Et Patrick disait les armées africaines ne sont pas suffisamment aguerries pour lutter contre le terrorisme. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux, mais également le répondeur d'Africa Radio. Je vous rappelle le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05 33 1 55 07 58 05. À demain pour une nouvelle édition du JDA.